Bonjour Madame Marianne Mersch.
Bonjour.
Vous avez soutenu une thèse intitulée « Franc-maçonnerie et les femmes au temps des Lumières, Angleterre, France et territoire allemand » le 16 décembre 2016. Cette thèse a été sélectionnée pour concourir au prix de thèse du Suprême Conseil de France 2018. Vous êtes anglophone, germanophone?
Je suis luxembourgeoise.
Le plus simple, c'est que vous nous parliez un peu de vous, qui vous êtes, quel est votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette thèse?
Alors j'ai repris mes études... Après ma carrière professionnelle que j'ai passée au Luxembourg, j'ai fait un master société et religion. Et dans ce cadre, j'ai présenté un mémoire sur les loges d'adoption en France. Et par la suite, ma directrice de thèse, j'ai décidé de faire un doctorat. Mais d'élargir la recherche à l'Angleterre et au territoire allemand de l'époque, quoi, au XVIIIe siècle. Donc, je voulais surtout exploiter des ressources primaires. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'Angleterre et les territoires allemands, parce que je parle les langues. Et donc, je peux facilement m'y déplacer et rechercher.
Vous avez repris des études après une première carrière.
Voilà.
Vous faisiez quoi?
J'étais directrice de centre pénitentiaire.
D'accord.
Avant, ce qui n'est...
C'est un changement de... La trajectoire intéressante.
Je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, c'est un changement, oui.
Alors, sur cette thèse, comment vous est venue cette idée? Est-ce que, par exemple, c'est un cheminement qui est parti d'un intérêt pour la franc-maçonnerie qui est arrivé et qui vous a conduit à étudier plus précisément l'émergence de la franc-maçonnerie féminine? Ou est-ce que c'est un parcours qui était d'étudier les sources de l'émancipation féminine à partir du XVIIIe siècle qui vous a fait découvrir cela? Ou est-ce que c'est tout à fait autre chose en fait?
Alors c'est un peu les deux, parce que je m'intéresse à la franc-maçonnerie depuis longtemps. Je connais la franc-maçonnerie, j'avais un oncle qui était franc-maçon au Luxembourg, à la Grande Loge de France, je venais de l'expliquer tout à l'heure. C'est une histoire qui m'a marquée parce que c'était le premier homme noir du Luxembourg qui a été initié au début des années 1930. Mm-hmm. Donc son épouse, elle est toujours en vie aujourd'hui. Et donc c'est une histoire, une très belle histoire qui m'a marquée, de cet homme franc-maçon. Donc je connais la franc-maçonnerie, j'en ai entendu depuis que je suis assez jeune quand même. D'un autre côté, en lisant, donc quand je trouvais des textes, je lisais, le sujet m'intéressait. Il y a une vingtaine d'années, voire plus, dans les années 1990, j'avais lu un article d'universitaire féministe aux États-Unis qui disait que les francs-maçons français avaient contribué à l'émancipation de la femme par les loges d'adoption. Alors que d'autres disaient que c'était tout à fait le contraire, qu'il n'avait que contribué à soumettre la femme davantage. Voilà, donc c'était deux visions. Donc j'ai commencé à lire là-dessus, le sujet m'intéressait, et puis comme j'ai repris des études, je voulais approfondir, voilà, pour comprendre effectivement de quoi il en est.
D'accord. Quelle est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé? Quel est votre avis?
Alors, mon avis est qu'on ne peut pas transmettre ce genre de féminisme ou ces querelles féministes qui existent aujourd'hui. On ne peut pas les transmettre au XVIIIe siècle, le contexte n'était pas le même. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les femmes étaient formellement exclues de la franc-maçonnerie, et bien que ces loges d'adoption... qui était féminine, créée par des hommes, existait. Donc il faut comprendre comment ces arguments qui excluaient les femmes, comment ils ont pu être contournés pour quand même créer une franc-maçonnerie féminine.
Voilà. C'était une stratégie de contournement vis-à-vis des anciennes constitutions.
Voilà, donc il fallait d'abord comprendre les arguments. Pourquoi les femmes étaient exclues, mais tout d'abord, il faut souligner que les francs-maçons, dès le départ, et que ce soit en Angleterre, en France ou dans les territoires allemands, ils se sont justifiés cette exclusion. Ils ont tout le temps expliqué pourquoi, donc ils ont mis en avant plein d'arguments, quoi. Et donc, ce qui était assez surprenant, quoi, parce que dans d'autres organisations, il n'y avait jamais eu de justification, quoi. C'était tout à fait naturel que les femmes soient exclues. Donc, ça pouvait pas, ça demandait pas de se justifier spécifiquement. Donc, il y a plein d'arguments qui ont été mis en avant pourquoi les femmes devaient être exclues de la franc-maçonnerie. Et donc, à partir de ce moment-là, si on connaît ces arguments, les raisons, parce que c'était raisonné. Donc, on donnait, bien que parfois, on peut, je ne sais pas si c'était vraiment la raison qui parlait, à ce moment-là, on peut voir comment ces arguments ont pu être contournés. Parce que quand ces loges ont été créées par des hommes, c'est-à-dire ils ont créé des loges féminines, où tout était fait pour initier des femmes, pour que des femmes puissent travailler dans des loges. Et donc, c'était réfléchi, c'était pas seulement créer un endroit de récréation, c'était vraiment réfléchi, et on expliquait aussi pourquoi les femmes peuvent être initiées en franc-maçonnerie, bien qu'il s'agisse d'une autre franc-maçonnerie de celle à laquelle participent les hommes, il s'agit quand même d'une franc-maçonnerie, voilà. Donc, c'était dans les discours et même dans les rituels, on trouve vraiment les frères de l'époque qui résonnent et qui expliquent aux femmes pourquoi elles peuvent devenir francs-maçons et pourquoi les hommes s'étaient trompés, de ne pas les initier. Alors, ce qui est remarquable dans tout cela, c'est que les hommes ont créé un espace féminin dans lequel ils se sont eux-mêmes introduits. Ça ne les gênait pas de participer à quelque chose de purement féminin. Bien sûr, les hommes étaient toujours initiés dans leur loge, hein, ouais, masculine. Dans ces loges d'adoption, c'était uniquement pour initier les femmes. Mais les hommes y participaient. Donc, ils étaient dans un endroit féminin. Clairement, ouais, féminin, dans lequel ils participaient pour aider les femmes, pour pouvoir travailler en tant que franc-maçon. Ce qui paraît tout à fait normal pour l'époque, quoi, parce qu'on ne laissait pas faire les femmes... quoi que ce soit, tout seul.
Oui, elle n'était pas complètement émancipée, on va dire, à l'époque, dans la loi et ainsi de suite.
Donc, voilà, donc comme beaucoup de personnes n'étaient pas émancipées. Ouais. Et les femmes n'étaient pas émancipées encore d'un autre point de vue. Voilà. Mais beaucoup d'hommes n'étaient pas émancipés à l'époque non plus. Il n'y avait pas... le concept de citoyenneté n'existait déjà. Je parle des années 1750, par exemple. Et même avant, voire au-delà. D'ailleurs, beaucoup de ces femmes étaient issues de l'aristocratie, quand même. Et même, par exemple, le Grand Orient de France, encore dans les années 1770, il n'acceptait pas les ouvriers. Ou il n'acceptait que les artisans sous certaines conditions. Alors que des femmes aristocrates pouvaient quand même devenir francs-maçons. Donc, de ce point de vue-là, l'émancipation, elle n'est pas seulement masculine, féminine. Il s'agit... Donc, la noblesse l'emportait quand même... Enfin, le rang social l'emportait souvent sur le sexe, quoi.
Ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une suite prévue à ce travail, à cette thèse ? Vous avez prévu de continuer à...
Alors, je n'ai pas de projet précis. En revanche, il y a encore des archives que j'aimerais bien exploiter, surtout en Allemagne, les archives prusses, où il y a beaucoup, beaucoup de recherches à faire encore. Donc, j'aimerais bien le faire, oui.
D'accord.
Et aussi, d'un autre point de vue, j'aimerais retravailler sur ces rituels. L'origine des rituels, par exemple. Rituel d'adoption. Oui, c'est le seul dont je parle dans ma thèse.
Est-ce que, alors, quelle a été votre réaction lorsque vous avez été contacté par le comité pour ce prix de thèse ? Parce que vous avez été contacté comme ça par vous-même.
Alors, ma réaction, elle était positive, plutôt. Je n'étais pas au courant que ce prix de thèse existait. Donc, c'était un bon moyen de faire connaître. Et d'ailleurs, j'ai été voir après sur le site, donc j'ai vu que c'est tout nouveau, quoi.
C'est
très, très, très jeune, donc c'est normal que ce n'est pas encore très connu, quoi. Donc, personnellement, je n'étais pas au courant. Voilà. Donc je trouve ça plutôt positif de faire la démarche pour faire connaître.
Moi, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé du coup après à déposer un dossier, parce qu'on vous contacte et ensuite vous prenez la décision de déposer un dossier de candidature. Donc là, c'est l'intérêt de découvrir un peu plus la maçonnerie ou c'est de faire connaître vos travaux?
C'est de faire connaître mes travaux et de voir si ça mérite récompense.
D'accord. Est-ce que la rencontre avec le Suprême Conseil de France a-t-il eu déjà ou aura-t-il un impact sur la suite de vos travaux? Est-ce que vous allez vous intéresser davantage à la franc-maçonnerie, à d'autres aspects, et ainsi de suite?
Alors, j'ai évidemment été voir le site du Suprême Conseil de France, quoi, où j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations, et même beaucoup d'informations historiques que je n'ai pas toutes lues, parce que il faut du temps. Je trouve qu'il est très bien fourni. Il y a énormément d'informations. Il y avait une exposition dessus aussi. Et donc, je pense que on peut trouver beaucoup de choses sur ce site. C'est intéressant. Ouais. Ou ce n'était peut-être pas votre question, non?
Non, mais c'est pas grave. C'est...
Si j'ai appris quelque chose.
Si le fait d'être dans ce processus du prix de thèse a influé ou va influer sur la suite de vos travaux, est-ce que vous allez travailler plus sur la maçonnerie de manière...
Oui, peut-être. Je pense que les entretiens que j'ai eus, c'est le deuxième entretien que j'ai eu. J'étais venue avec Monsieur Castellino le 9 mars et je trouvais ça très intéressant parce que c'était même un échange, je dirais, parce que j'ai appris des choses, oui, auxquelles je n'avais pas pensé avant. D'un point de vue comme... je ne me rappelle pas du nom du monsieur là, avec lequel j'ai discuté la dernière fois.
Jacques Walsh.
Monsieur Walsh, qui, en tant que franc-maçon, a bien, qui connaît ses rituels du rite écossais, avait une autre vue ou une vision là-dessus que moi je n'avais pas. Donc ça, c'est je pense que c'était très intéressant.
Avez-vous quelque chose à rajouter
je vous remercie.
Pour nos auditeurs?
Je remercie.
C'est moi qui vous remercie.